Toi, Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à toutes et à tous. Le monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du lundi 22 mai 2023. En direct de Washington, Idrissa Sedoulia. Pour commencer les titres, au Burkina Faso, des militants de la société civile arrêtés pour incitation à un attroupement armé ou non armé. Large victoire du parti au pouvoir au triple scrutin du 13 mai en Mauritanie. En RDC, les évêques soupçonnent des politiques d'instrumentaliser un conflit dans l'Ouest. Violent combat au Soudan, mais les deux généraux rivaux promettent encore une trêve lundi soir. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky dément la prise de Bakhmout revendiquée par la Russie. Rencontre ce lundi entre le président démocrate Joe Biden et le chef républicain de la Chambre des représentants Kevin McCarthy sur l'épineux dossier de la dette. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la multi-écho. Pour l'instant, le journal. Au Burkina Faso, 6 personnes, dont des acteurs de la société civile, ont été interpellées et placées en garde à vue pour, selon un communiqué, association de malfaiteurs, divulgation de fausses informations et incitation à un attroupement armé ou non armé. Abdourahmane Dia.
Les personnes déjà interpellées et gardées à vue, ainsi que celles qui pourraient l'être dans les prochains jours, ne sont nullement poursuivies pour leur opinion. Elles sont interpellées parce que des indices concordants nous font à croire qu'elles ont commis des faits graves, a souligné hier le procureur du tribunal de grande instance de Ouagadougou dans un communiqué. Au début du mois de mai, la division des investigations criminelles a ouvert une enquête suite à la diffusion de messages audio sur les réseaux sociaux incitant à brûler le palais du Mogonaba, chef traditionnel de l'ethnie Mossi, majoritaire au Burkina Faso. Le 2 mai, un premier audio présentait le Mogonaba comme un opposant au régime du capitaine Ibrahim Traoré au pouvoir depuis un putsch en septembre 2022. Le jour suivant, deux audios annonçaient une attaque imminente contre le palais du monarque, appelant cette fois à s'y opposer. Selon le procureur, tous ces messages audio avaient en réalité été envoyés par les mêmes personnes dans le but de provoquer un affrontement entre partisans et adversaires du Mogonaba avec des conséquences graves. Par ailleurs, le leader d'un mouvement pro-régime, Mohamed Sinan, a été interpellé pour diffamation et mise en danger de la vie d'autrui.
Le parti au pouvoir en Mauritanie a remporté une large victoire aux législatives régionales et municipales du 13 mai, selon des résultats officiels proclamés hier dimanche. C'est une victoire qui conforte la position du président Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani, mais que l'opposition estime entachée de fraude énorme. Le point avec Jean-Roger Bion.
Le parti El Insaf, au pouvoir depuis 2019, a remporté 80 sièges de députés, selon le président de la CENI. Une dizaine de formations membres de la mouvance présidentielle ont obtenu 36 et l'opposition 24, dont 9 pour sa principale formation, le mouvement islamiste Wassoul. Ces élections visaient à élire 176 députés, 13 conseils régionaux et 238 conseils municipaux à un an de l'élection présidentielle. Un deuxième tour est prévu le 27 mai pour pourvoir 36 sièges de députés de la nouvelle Assemblée nationale, deux systèmes ayant cours en fonction du type de circonscription. Le parti au pouvoir remporte également les 13 conseils régionaux en jeu et gagne dans 165 communes sur 238. Des partis de la majorité présidentielle et de l'opposition se partagent les autres communes. La participation a atteint 71,8% pour ces élections qui ont vu la participation de 25 formations politiques. Les chiffres officiels doivent être validés par la Cour suprême.
En RDC, les évêques catholiques ont, sans les nommer, accusé hier dimanche des responsables politiques congolais d'instrumentaliser un conflit communautaire qui a fait des centaines de morts dans l'ouest du pays. Les détails avec Michel Joseph.
Les évêques de 9 diocèses ont déclaré, après des visites pastorales et des entretiens avec la population, être intimement convaincus que des acteurs invisibles et sanguinaires, basés à Kinshasa, se cachent derrière ce conflit. Cette déclaration a été faite à Kengé à l'issue d'une assemblée épiscopale regroupant les diocèses des provinces de Kinshasa, Congo central, Kwango, Kwilu et Mai-Ndombe. Ils ont dénoncé l'instrumentalisation du conflit par des personnes défendant des intérêts politiques et économiques occultes, ainsi que par des politiciens en quête de légitimité locale. Les évêques ont lancé un appel pour que ces acteurs cessent de manipuler et d'instrumentaliser un peuple déjà meurtri par la souffrance, la misère et les deuils récurrents. Ils ont exhorté à promouvoir une coexistence harmonieuse entre les différents peuples de la RDC. Les violences communautaires ont débuté en juin de l'année dernière dans la région de Kwamouth, dans la province de Mai-Ndombe, à la suite d'un conflit foncier entre les Teke, qui revendiquent l'origine et la propriété des villages le long du fleuve Congo sur environ 200 kilomètres, et les Yaka, qui se sont installés ultérieurement. Depuis lors, les violences se sont propagées aux provinces voisines de Kwilu et Kwango, atteignant même la commune de Maluku, à l'entrée de Kinshasa. Selon Human Rights Watch, ces violences ont fait au moins 300 morts.
Raids aériens, tirs et explosions ont de nouveau secoué Khartoum dimanche après l'annonce d'un cessez-le-feu d'une semaine accepté par l'armée et les paramilitaires se disputant le pouvoir au Soudan. Censé commencer lundi soir, les médiateurs américains et saoudiens ont annoncé avoir obtenu, après deux semaines de négociations en Arabie Saoudite, une trêve d'une semaine à compter de lundi à 19h45 GMT. Les deux camps ont annoncé par communiqué vouloir respecter cette trêve que l'ONU, l'Union africaine et le Bloc de l'Afrique de l'Est, l'IGAD, ont salué. Mais en plus de cinq semaines de guerre, une dizaine de cessez-le-feu ont été promis ou aussitôt violés. Cette semaine, cette fois, assure Riyad et Washington, il y aura un mécanisme de surveillance du cessez-le-feu regroupant des représentants des deux camps ainsi que des États-Unis et de l'Arabie Saoudite.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président Joe Biden et le chef républicain Kevin McCarthy se rencontreront ce lundi en personne afin de poursuivre leurs très âpres négociations sur le plafond de la dette américaine. Les États-Unis sont confrontés à une échéance critique pour relever leur plafond de la dette avant le 1er juin et éviter un défaut de paiement. Janet Yellen, la secrétaire au Trésor, a mis en garde hier dimanche quant à la capacité du pays à payer toutes ses factures après le 15 juin. Eric Manirakidza.
Il y a toujours de l'incertitude au sujet des recettes et des dépenses fiscales, et donc il est difficile d'avoir une incertitude, mais mon évaluation est que les chances d'atteindre le 15 juin, tout en étant en mesure de payer toutes nos factures, sont assez faibles, a déclaré la secrétaire au Trésor lors d'une interview sur la chaîne NBC. Les négociations entre la Maison-Blanche et l'opposition républicaine sont en impasse en raison de profonds désaccords sur les coupes budgétaires exigées par les républicains. Joe Biden s'est entretenu par téléphone hier avec Kevin McCarthy, le chef des républicains, à la Chambre des représentants, en vue d'éviter que la première économie du monde ne se retrouve dans l'incapacité de payer ses factures. Il songe aussi à un recours au 14e amendement de la Constitution américaine qui stipule que la validité de la dette publique des États-Unis ne doit pas être remise en cause.
Lors d'une conférence de presse hier, à l'issue du sommet du G7 à Hiroshima au Japon, le président Biden a estimé que les relations entre Washington et Pékin devraient connaître un dégel très prochainement, après que Washington a abattu cette année un ballon espion chinois présumé, Gabi Dorsil.
Joe Biden a expliqué que les relations s'étaient détériorées dans les mois qui ont suivi ses entretiens avec le président chinois Xi Jinping lors du sommet du G20 sur l'île indonésienne de Bali en novembre. La décision de Washington d'abattre en février un ballon espion chinois qui aurait survolé les États-Unis a déclenché une querelle diplomatique entre les deux puissances. L'administration Biden a également exaspéré la Chine en s'attaquant au commerce des semi-conducteurs qui, selon Washington, comportent des risques d'utilisation à des fins militaires. Le président américain a défendu ses actions dimanche, un jour après que le G7 a mis en garde la Chine contre ses activités de militarisation dans la région. La Chine est en train de développer son armée et c'est pourquoi j'ai dit clairement que je n'étais pas prêt à faire du commerce sur certains articles avec elle, a-t-il déclaré.
L'armée ukrainienne affirme mener des contre-attaques dans la ville dévastée de Bakhmout, dont le président Volodymyr Zelensky a démenti la prise revendiquée par la Russie. Le chef du groupe paramilitaire russe Wagner Evgeny Prigojine, dont les hommes sont en première ligne dans les combats, puis le ministère russe de la Défense avait assuré samedi avoir totalement libéré Bakhmout, ville minière dans l'est de l'Ukraine. La Minute Éco, Nathalie Barge.
Au Nigeria, le réseau mobile 5G de MTN est disponible dans 13 villes, a indiqué l'opérateur de télécommunications, affirmant avoir déployé plus de 700 sites télécoms. Parmi les villes couvertes, notamment Lagos, Abuja, Port Harcourt, Kano, Maiduguri et Wari. MTN vise une couverture nationale d'ici 2025. Le déploiement de la fibre est essentiel pour garantir l'extension de la 5G dans tout le pays, a souligné le directeur technique de la société, Mohamed Roufaï, ajoutant que MTN travaille avec des fabricants d'équipements pour des appareils 5G abordables. L'Ouganda va engager le groupe turc Yapı Merkezi pour la construction d'un chemin de fer entre Kampala et la frontière avec le Kenya. Selon le gouvernement, les travaux devraient commencer cette année. L'Ouganda avait attribué en 2015 le contrat de plus de 2 milliards de dollars à une entreprise chinoise, mais l'a annulé en janvier faute de mobilisation des fonds nécessaires au projet. Le chemin de fer de près de 273 km fait partie du corridor ferroviaire qui devrait connecter sur 1700 km le port kényan de Mombasa à plusieurs pays dont l'Ouganda, le Rwanda, le Burundi et la RDC. Le chiffre d'affaires du groupe De Beers pour la quatrième session de vente aux enchères de diamants cette année a baissé de plus de 20% en glissement annuel et de 11% par rapport à la session précédente. Cette vente de diamants bruts a atteint 480 millions de dollars en raison des prix du diamant moins élevés. 70% de la production annuelle du groupe provient du Botswana. De Beers, qui vend 30% de la production mondiale de diamants, opère dans 34 autres pays, dont la Namibie, l'Afrique du Sud, le Canada et l'Australie.
Merci Nathalie. À présent, les sports avec Élisée Oumpatine. Élisée, bonjour.
Bonjour Idrissa et bonjour à tous.
On commence par la Basketball Africa League, les quarts de finale à Kigali au Rwanda.
Oui, et le Petro de Luanda est venu difficilement à bout d'Abidjan Basket Club sur le score de 88 à 84 dans un match à couper le souffle au prochain tour. Les Angolais affronteront les Sénégalais de l'AS Douane qui ont dominé de bout en bout les Mozambicains de Ferroviário Beira score 93-73. L'autre demi-finale opposera le Stade malien victorieux 78-69 des Sud-Africains de Tigers aux Égyptiens d'Al Ahly, vainqueur des Rwandais d'Energie Group 94-77.
Du volleyball à présent avec les championnats d'Afrique des clubs champions hommes et dames en Tunisie.
Et chez les messieurs, la compétition a rendu son verdict à Kelibia avec le sacre du club hôte, le Mouloudia sportif de Boussalem, vainqueur 3-7 à 2 des Égyptiens de Zamalek. Où l'aide à Douane d'Algérie prend la troisième place. Après avoir battu Port Autonome de Douala 3-7 à 0, l'entraîneur du club camerounais, Jean-Patrice Ndaki, est tout de même satisfait du parcours de son équipe et relève quelques points qui lui ont fait défaut.
Avant tout, je voudrais féliciter l'équipe algérienne. Ils ont fait un très beau parcours et aujourd'hui, ils l'ont démontré. On est assez satisfait dans l'ensemble du tournoi. Il y a beaucoup de points qui n'ont pas marché. Pourtant, on était prévenus, notamment les fautes directes. C'est un autre péché, je pense, dans le volleyball au Cameroun. On essaie de changer ça. Je pense que ça va prendre un peu plus de temps que prévu.
Au niveau des dames, la finale se jouera aujourd'hui à Nebel entre Kenya Paplan Company et Zamalek d'Égypte.
Football pour terminer, début de la Coupe du Monde des moins de 20 ans en Argentine.
Tout à fait, et fortune diverse pour les deux sélections africaines en lice hier. Le Nigeria dans le groupe D a réussi son entrée en battant la République Dominicaine 2-1. En revanche, le Sénégal, champion d'Afrique en titre, s'incline 1-0 devant le Japon.
Les deux derniers représentants africains entrent en compétition aujourd'hui. La Tunisie face à l'Angleterre et la Gambie contre le Honduras.
Merci Élisée.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
En votre compagnie, Idrissa Seydoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. En Côte d'Ivoire, le PPACI, le parti politique de Laurent Gbagbo, claque la porte de la commission électorale indépendante suite à la radiation de l'ancien chef de l'État de la liste d'électeurs. En effet, à environ 4 mois des élections locales, la CEI a remis samedi la liste électorale provisoire aux partis et groupements politiques. Fait notable, Laurent Gbagbo n'y figure pas. Le point dans ce reportage de Delphine Boise, notre correspondante à Abidjan.
Étape importante du processus électoral, la publication de la liste électorale provisoire. Le président de la commission électorale indépendante, Ibrahim Koulibaly Kuibière.
8 016 796 électeurs, soit une augmentation de 531 714 électeurs comparé à la liste électorale définitive de 2020, sur laquelle figurent 7 485 082 électeurs. Les 8 016 796 électeurs provisoirement inscrits sont, selon le genre, répartis ainsi qu'il suit. 3 886 425 femmes, soit 48,48%. 4 130 371 hommes, soit 51,52%.
La CEI a remis aux partis politiques la liste électorale provisoire sous forme numérique. Réaction mitigée des partis politiques. Certains reconnaissent la valeur du travail abattu. Doumouya Brahima, du RHDP, le parti présidentiel.
À l'explication, la commission électorale nous a convaincus dans la mesure où ils ont fait un travail scientifique, un travail rigoureux.
Kwaku Kra, au nom du FPI, le nouvel allié du RHDP.
Nous avons apprécié et nous avons salué et félicité la CEI pour la qualité du travail qui a été mené pendant ce recensement.
Cependant, d'autres désapprouvent ce travail de la CEI, à l'image du PPACI, dont le représentant, professeur Sébastien Danon-Djedje, dénonce l'absence du nom de leur mentor, Laurent Gbagbo, sur la liste électorale provisoire.
Le président Gbagbo est allé s'inscrire volontairement sur la liste électorale, son nom n'est pas sorti. Pourquoi c'est pas sorti? Et comme ce n'est pas sorti, nous là, on nous retire de la cérémonie.
Sur la radiation de Laurent Gbagbo, la réponse d'Ibrahim Koulibaly Kuibière, président de la CEI.
L'article 4 dit, ne peuvent être sur la liste électorale que les électeurs. Or, pour être électeur, il faut jouir de ses droits civils et politiques, être ivoirien. Cette année, le ministère de la Justice nous a donné une liste de 11 000 personnes déchues de leurs droits civils et politiques. Ce n'est pas un acharnement quand on parle du président Gbagbo.
La date d'affichage de la liste électorale provisoire est fixée du 1er au 10 juin 2023, période qui ouvre également la phase du contentieux. Notons que le collège électoral est convoqué aux urnes le 2 septembre 2023 pour les élections régionales et municipales avant la présidentielle de 2025. Delphine Bouise, Abidjan, VOA, Afrique.
Abidjan, Côte d'Ivoire, 99 FM, c'est bien sûr VOA Afrique, 24h sur 24.
Élection toujours, année très chargée au Gabon. Le pays organise à la fois la présidentielle, les législatives et les conseils municipaux. Les appels à l'enrôlement des électeurs fusent de partout. Lancé le 9 mai dernier pour une durée de 30 jours, la révision des listes électorales s'emballe autour des centres dédiés à cet effet, nous dit dans ce reportage notre correspondant à Libreville, Ismaël Obiangze.
Sur fond d'affiches publicitaires dans les grands carrefours de Libreville, la campagne d'enrôlement amorce sa vitesse de croisière. Marguette Anoumou, une habituée du vote, procède cette année à un changement de domicile.
Je votais à Angonji. Maintenant, je me rapproche du centre-ville.
Qu'est-ce qu'on vous a demandé ce matin?
Non, juste de revenir avec mon ancienne carte de vote. Par rapport au numéro de le NIP, je crois, pour retrouver si les coordonnées sont les mêmes.
Depuis près de deux semaines, les centres d'inscription ne les emplissent pas. Anciens et primo-électeurs sont déterminés cette année à remplir leurs devoirs civiques le moment venu. C'est le cas d'Aïcha, qui s'inscrivant pour la première fois, peut fièrement brandir son récépissé de carte d'électeur.
J'ai décidé de me faire enrôler pour élire aussi un président, bon, le président qui se présentera, qui aura les mêmes ambitions que moi, les mêmes idées.
À côté d'Aïcha, d'autres jeunes comme Mohamed Adamou sont sur le point de remplir les formalités d'inscription sur la liste électorale. Pour lui, c'est une grande responsabilité.
Et comme tout citoyen, c'est notre devoir de venir s'enrôler et aller voter. Voilà, au fur et à mesure que vous essayez un peu de regarder, de vous imprégner de la situation, à un moment donné, il faut prendre ses responsabilités. C'est une responsabilité de tout un citoyen.
Un peu plus d'une centaine de centres de révision accueillent les usagers à travers le pays. Quant aux critères à remplir pour s'enrôler, voici les documents à fournir selon la loi. Jocelyne Makita, maire adjointe du 3e arrondissement de Libreville.
Tous les documents d'état civil, notamment les actes de naissance légalisés, la CENI ou le passeport. Et lorsque vous êtes déjà enrôlé et que vous voulez basculer, il suffit de présenter le récépissé. Et ça se passe très bien. Nous avons une très belle équipe ici du ministère de l'Intérieur à laquelle nous associons l'équipe de police. Tout se passe très bien. Il y a une bonne dynamique.
Cette opération offre en outre l'opportunité de supprimer de la liste les personnes décédées. Pour ce faire, il faut présenter l'acte de décès et la pièce d'identité de la personne qui en fait la demande. L'opération dispose également d'une période de réclamation de 3 jours. Sauf qu'elle concerne, selon le ministère de l'Intérieur, les personnes ayant été régulièrement enrôlées et dont les noms ne figurent pas sur la liste électorale ou celles dont les données ont été mal reportées. Ismaël Obionze, Libreville, pour VOA Afrique.
Au Burkina Faso, les autorités ont organisé samedi une journée de jeûne et de prière pour un retour rapide et définitif de la paix dans le pays. Le gouvernement pense que cela peut avoir un impact positif dans cette lutte contre le terrorisme. Les responsables religieux estiment eux aussi que l'initiative est à saluer, même si ce n'est pas une première dans le pays. De Ouagadougou, notre correspondant Lamine Traoré.
Ce samedi, les Burkinabés étaient appelés à jeûner et prier pour la paix et la sécurité dans le pays. Le gouvernement avait annoncé début mai l'organisation d'une journée nationale de jeûne et de prière pour la paix et la cohésion sociale sur toute l'étendue du territoire. La journée, toujours selon les autorités, avait pour objectif de rassembler tous les Burkinabés sans distinction de religion ni de croyance dans une communion de prière pour un retour rapide et définitif de la paix au Burkina Faso. Initiative saluée par les religieux. Léontine Ouedraogo est de la congrégation des Sœurs de l'Immaculée Conception de Ouagadougou.
S'unir d'un seul cœur et d'une seule âme pour implorer Dieu, je crois que c'est signe que le peuple est conscient et sait qu'une force supérieure à nous peut nous aider dans la résolution de cette crise-là.
Alors, est-ce que vous pensez que cela peut apporter véritablement quelque chose dans cette lutte?
Je suis convaincue parce que je crois en Dieu et je sais que c'est lui le prince de la paix. Nous sommes une humanité fragile en marche vers lui et avec sa grâce et son aide, nous pouvons vraiment obtenir cette paix-là.
Noun Bagayogo, imam au CERFI, le Cercle d'études de recherche de formation islamique, et à l'AEMB, l'association des élèves et étudiants musulmans au Burkina.
Bismillahirrahmanirrahim, au nom de Dieu, donc, c'est lui-là qui est maître de toutes les situations et qui a créé toutes les choses et qui en est garant. Il est, pour nous croyants, tout à fait normal que on puisse organiser ces journées parce qu'en réalité, la paix dont on a besoin, la paix des cœurs, le rapprochement donc des êtres humains, en réalité, elle ne peut se faire qu'avec la volonté de Dieu.
Pensez que cela peut porter fruit?
Naturellement, nul ne peut façonner une paix à l'insu de Dieu. Pour nous croyants, c'est Dieu qui donne la paix. De Dieu vient la paix, à lui retourne la paix. Et donc, nous sollicitons cette paix-là de Dieu, avant d'abord d'œuvrer humainement pour y aller.
Une délégation gouvernementale s'est aussi rendue chez le Mogo Naba, l'empereur des Mossé, garant des coutumes. Bassolma Bazié, ministre d'État, ministre du Travail.
Le message, c'est tout simplement dire que ce sont des délégations qui ont été mandatées par le premier responsable du pays à savoir son Excellence le Président de la Transition, Capitaine Ibrahim Traoré, et son Excellence le Premier Ministre, qui nous envoie avec le même message, qui est que d'implorer l'ensemble des responsables coutumiers et religieux de rentrer dans une communion de prière, invoquer l'ensemble des forces religieuses et traditionnelles pour qu'on puisse retrouver la paix.
Plusieurs journées de jeûne et de prière ont déjà été organisées au Burkina pour le retour de la paix. En avril 2022, à la demande du lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba, les religieux et coutumiers ont prié durant 3 jours pour la paix et la sécurité. En octobre 2018, les communautés religieuses avaient organisé une autre journée de jeûne et de prière. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Restez branchés sur VOA Afrique à Ouagadougou sur 102.4 FM au Burkina Faso.
Au Niger, l'ancien président Mahamadou Issoufou, lauréat du prix Mo Ibrahim, a présenté officiellement son trophée reçu au Kenya en avril dernier à son successeur Mohamed Bazoum. C'était vendredi dernier au cours d'une cérémonie sur laquelle revient notre correspondant Abdulrazak Idrissa.
Les différents intervenants à la cérémonie ont tous insisté sur la symbolique que représente l'acte posé par l'ancien président Issoufou Mahamadou et qui lui a valu le prestigieux prix Mo Ibrahim. Des intervenants aussi bien nationaux qu'internationaux, comme l'ancien président de l'Assemblée nationale du Mali, Ali Nuhun Diallo.
Ce prix de Mo Ibrahim n'honore pas que le président Mahamadou Issoufou, pas seulement que les sociaux-démocrates nigériens, mais aussi l'internationale socialiste africaine, et devrait faire réfléchir le président Macky Sall, qu'Allah le protège contre la tentation de briguer un troisième mandat pour lui éviter de connaître le sort du président Alpha Condé.
Seni Oumarou, le président du Parlement nigérien, a énuméré quelques dividendes du geste de Issoufou Mahamadou.
Notre pays est cité aujourd'hui comme un exemple démocratique dans tous les forats et toutes les réunions internationales. Ce qui n'est pas rien quand on connaît l'environnement sociopolitique dans lequel nous évoluons aujourd'hui. L'autre dividende que notre pays a tiré et continue encore à tirer de cet acte, c'est la bienveillance et la célérité avec lesquelles nos partenaires techniques et financiers traitent les dossiers du Niger. L'acte que vous avez posé a certainement évité à notre pays des troubles inutiles, dont les conséquences seraient sans doute dommageables pour notre cohésion sociale. C'est indéniablement l'un des plus beaux cadeaux qu'un homme d'État puisse offrir à son pays.
Recevant le trophée du prix des mains du lauréat, le chef de l'État, Mohamed Bazoum, lui a témoigné toute la reconnaissance de l'ensemble des Nigériens.
Monsieur le Président, le prix Mo Ibrahim que vient de vous décerner la prestigieuse fondation éponyme est une belle consécration. Les Nigériens sont très reconnaissants de ce que vous avez fait pour notre pays. Ils sont très fiers pour ce que vous représentez en Afrique. Votre nom est passé à la postérité pour avoir été associé à un geste tout d'élégance et de panache. Et les générations futures en écriront la geste fabuleuse. Votre geste restera un grand défi pour tous qui viendront après vous. Ils n'ont plus d'autre choix que de respecter la Constitution.
Abdulrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
De la Mauritanie au Tchad,
du Mali au Burkina Faso,
du Niger au Nigeria,
Focus Sahel aborde les questions urgentes qui affectent la région.
La sécurité, la liberté d'expression,
l'éducation,
les questions sociales,
l'esprit d'entreprise.
Focus Sahel vous invite au cœur de la conversation dans cette importante région d'Afrique.
Focus Sahel, en direct de Washington, sur VOA Afrique.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Au micro, Idrissa Sedoudia, à la mise en onde de Michel Joseph, à la console Kelvin Fowler. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique. We'll